Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Sédoudia, bonjour. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a nommé mercredi soir un nouveau premier ministre, Anatole Koliné Makoso, ministre de l'enseignement dans le gouvernement sortant, selon un décret lu hier soir à la télévision publique. Il remplace à ce poste Clément Mwamba, qui était à la primature depuis 2016. De l'autre côté du fleuve, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, s'est rendu hier à Lubumbashi, fief de son prédécesseur Joseph Kabila, est capitale du Haut-Katanga, riche en cuivre et aussi en cobalt, dont son pays est le premier producteur mondial. M. Tshisekedi a accusé à cette occasion les investisseurs étrangers de s'accaparer les richesses du pays au détriment des Congolais. L'ex-président nigérian Jonathan Goodluck, médiateur de la CDAO au Mali, a indiqué hier que les autorités risquaient de devoir fixer des priorités étant donné le peu de temps qu'il leur reste pour mener à bien une transition censée ramener les civils au pouvoir début 2022. Abdourahman Dia nous en parlera. Au Niger, 5 morts et 2 blessés graves hier, selon un élu local, lors d'une attaque contre le village de Fantio dans la région de Tillabéri, proche du Mali, au moment où le pays célébrait la fête de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan musulman. Les attaques djihadistes contre des civils se sont multipliées depuis le début de l'année au Niger. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a annoncé hier soir s'être entretenu avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et avoir réclamé la fin des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël. Washington avait annoncé plus tôt l'envoi d'un émissaire en Israël et dans les territoires palestiniens pour exhorter une nouvelle fois à la désescalade. Le président Joe Biden, qui se dit optimiste, et M. Blinken se sont tous les deux entretenus avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Au moins 67 personnes ont été tuées à Gaza depuis l'escalade des violences lundi selon le ministère de la Santé du territoire. 7 personnes ont été tuées en Israël selon des sources hospitalières et on déplore des centaines de blessés en un peu plus de 2 jours. Peu après minuit, les alertes à la roquette ont repris dans le sud d'Israël, mais aussi dans la métropole de Tel Aviv et pour la première fois depuis le début de l'escalade lundi, jusque dans le nord. Le Hamas a lancé des roquettes sur Tel Aviv et en direction de Jérusalem tôt ce matin et Israël promet de continuer à mener des frappes à Gaza. Tous les vols vers l'aéroport de Tel Aviv ont été détournés. La Tunisie, la Norvège et la Chine ont demandé hier soir la tenue ce vendredi d'une nouvelle réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, cette fois-ci en public. Claire Morin-Gibourg nous parlera des réactions dans le monde. En Afghanistan, début d'un cessez-le-feu provisoire à l'occasion de l'Aïd el-Fitr après un regain de violence. Ici aux États-Unis, le groupe Colonial Pipeline a annoncé mercredi avoir amorcé le redémarrage des opérations de son oléoduc après avoir été la cible d'un piratage 5 jours plus tôt, conduisant à sa fermeture et provoquant la ruée dans les stations-service d'automobilistes paniqués à l'idée d'une pénurie d'essence. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Michel Joseph. L'ancien président américain Donald Trump a réaffirmé hier sa profonde influence sur les républicains avec l'éviction de Liz Cheney, sa grande bête noire, des sommets de leur hiérarchie à la Chambre des représentants pour avoir dénoncé son obstination sans preuve à dénoncer une présidentielle volée. Mais la fille de l'ex-vice-président Dick Cheney s'est juré de poursuivre la lutte contre ce culte de la personnalité au sein de son parti. Nouvel effort pour pousser la population américaine à se faire vacciner, le gouverneur républicain de l'Ohio, qui reconnaît que d'autres le qualifieront de fou, a annoncé hier créer une loterie avec $1 million à la clé pour les personnes de plus de 18 ans ayant reçu au moins une injection. Mais dans son état. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Sédoudia. Restez à l'écoute pour la suite de nos informations. La suite de nos informations. Le médiateur des États d'Afrique de l'Ouest au Mali, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, demande aux autorités de transition de fixer des priorités, étant donné le peu de temps qu'il leur reste pour mener à bien une transition censée ramener les civils au pouvoir début 2022. Abdourahmane Dia.
À la fin de sa visite entamée dimanche à Bamako, Goodluck Jonathan a indiqué qu'il était crucial pour le gouvernement malien de bien gérer le temps qui lui reste avant les prochaines élections. Le communiqué final exprime la satisfaction du médiateur devant des progrès remarquables dans la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO. Mais devant la presse, l'ancien président nigérian a exprimé sa préoccupation face à la résurgence des crispations politiques. Le mouvement du 5 juin, collectif qui fut en 2020 le fer de lance de la contestation achevée par le putsch, a réclamé la semaine passée la dissolution du gouvernement de transition ou encore la relecture d'un accord de paix avec certains groupes armés. Les autorités viennent d'annoncer un calendrier électoral avec un premier tour d'élection présidentielle et parlementaire le 27 février 2022, précédé par un référendum constitutionnel le 31 octobre de cette année.
Aux États-Unis, c'est la panique des automobilistes à la recherche d'essence sur la côte Est, plus de 6 jours après la fermeture du principal pipeline attaqué par des pirates informatiques. Le point avec Michel Joseph.
Une douzaine d'États sur la côte Est ont déclaré l'état d'urgence, renforçant le sentiment d'affolement des consommateurs. En Floride, 73% des stations de la région de Pensacola sont à court d'essence. Autour de Raleigh-Durham, en Caroline du Nord, 7 stations sur 10 n'ont plus de carburant. Et 6 sur 10 sont en manque autour d'Atlanta, en Géorgie. L'essence a même commencé à se faire rare en Virginie et à Washington DC, la capitale. Le prix à la pompe du gallon de 3,79 litres frôle les 3 $, une première depuis novembre 2014. Colonial Pipeline, qui transporte 45% de l'essence, du diesel et du kérosène depuis les raffineries du Golfe du Mexique vers la côte est des États-Unis, a été victime vendredi soir d'un piratage informatique. Selon la police fédérale, cette cyberattaque a été menée par le groupe criminel DarkSide. Colonial Pipeline a rouvert des lignes opérées manuellement, mais pas encore son réseau principal. Son concurrent, Plantation Pipeline, transporte le tiers et s'arrête à Baltimore. Pour atténuer les perturbations, les autorités ont donné la permission dimanche aux chauffeurs routiers transportant du carburant à travailler plus longtemps.
Colonial Pipeline a annoncé mercredi soir avoir amorcé le redémarrage des opérations de son oléoduc. Il faudra cependant plusieurs jours avant un retour à la normale de ce réseau. Après une escalade de violence entre le Hamas et Israël, les réactions des grandes puissances se multiplient entre exhortations à la retenue, appel à donner une leçon à Israël ou encore accent mis sur le droit de l'État hébreu de se défendre. Claire Morin-Gibourg.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a réitéré hier ses appels à une désescalade des tensions pour mettre fin à la violence entre Israël et les Palestiniens. Il a eu une conversation téléphonique avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Les États-Unis vont envoyer un émissaire au Proche-Orient, estimant qu'Israël a un devoir supplémentaire d'essayer de faire tout son possible pour éviter les victimes civiles. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une nouvelle réunion d'urgence, mais a échoué à nouveau à s'entendre sur une déclaration en raison d'une opposition persistante des États-Unis à l'adoption de tout texte, selon des diplomates. L'Union européenne a appelé à l'arrêt immédiat des violences pour éviter un conflit plus large. Le président russe Vladimir Poutine a exprimé sa préoccupation face aux combats qui se poursuivent, à l'augmentation du nombre des morts et des blessés lors d'une conversation avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. L'Organisation de la coopération islamique a condamné les attaques répétées des autorités d'occupation israélienne contre le peuple palestinien.
Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le Comité international olympique rappelle qu'il est concentré sur la mise en œuvre des Jeux olympiques de Tokyo. Malgré la crise sanitaire et l'hostilité massive de la population japonaise au maintien de l'événement, il y a beaucoup de spéculations, mais à 78 jours de la cérémonie d'ouverture le 23 juillet, nous sommes pleinement concentrés sur la phase finale de la mise en œuvre des Jeux, assure Mark Adams, porte-parole du président du CIO, Thomas Barr. Alors que la recrudescence des cas de COVID-19 a contraint plusieurs départements japonais, dont celui de Tokyo, à prolonger l'état d'urgence jusqu'à fin mai, l'instance olympique dit souhaiter ne pas s'attarder sur les sondages confirmant depuis des mois que la plupart des Japonais sont favorables à une annulation ou à un nouveau report de la compétition, déjà décalée d'un an en raison de la pandémie. Sur le continent, nous poursuivons notre série sur la présentation des équipes qui prendront part à la toute première édition de la Basketball Africa League prévue à Kigali au Rwanda du 16 au 30 mai. Nous marquons un arrêt sur le club camerounais Force Armée et Police Basketball, connu sous le sigle de FAP. Marius Mounga.
Créé en 1972 à Yaoundé, Force Armée et Police Basketball, connu sous le nom de FAP Yaoundé, est l'équipe de basketball de Forces Armées et de la Police camerounaise. En novembre 2019, après avoir battu Abidjan Basketball en demi-finale du tournoi qualificatif dans la division Ouest, FAP représente le Cameroun à la première édition de la nouvelle Basketball African League. Les Camerounais ont réussi leur premier tour des éliminatoires, mais ont mieux fait au second. Sur le plan national, en 2020, FAP a remporté son premier titre de la compétition camerounaise, Élite Messieurs, pendant laquelle le club est resté invaincu tout au long du tournoi. Pour le Basketball African League, FAP peut compter sur son entraîneur, Lazare Adingono, l'américano-camerounais, qui est l'ancien joueur de basketball.
FAP du Cameroun partage le groupe B avec l'AS Police du Mali, l'AS Salé du Maroc et Petro Luanda. Zoom sur les Angolais avec Bagassi Koura.
Le club angolais de basketball Petro Luanda fait partie des plus anciens clubs de basket du continent. Fondé en 1980, il a depuis lors raflé de nombreux trophées nationaux et internationaux, avec notamment une douzaine de fois la Coupe d'Angola entre 1990 et 2014. Le club fait partie des poids lourds donc du continent en matière de basketball, ayant remporté deux fois le titre de champion d'Afrique FIBA. Son coach, le Brésilien José Neto, compte sur une équipe relativement jeune mais expérimentée, avec une taille moyenne de joueurs estimée à 1,94 m et une moyenne d'âge de 27 ans. Parmi les joueurs à surveiller, le jeune ailier de 22 ans, Melvin Da Silva, transfuge en 2020 du club français Vichy Clermont, le meneur de jeu américain Antoine Scott ou encore l'ailier fort Aboubakar Gakou.
Autre champion de la FIBA Africa Champions Cup, logé dans ce groupe B, les Marocains de l'AS Salé que nous présente Michel Joseph.
Le Maroc est représenté à cette Basketball Africa League à travers l'association sportive Salé, fondée en 1928 et sept fois championne nationale. L'équipe a joué dans la division Excellence, le championnat d'élite, pendant de nombreuses années, mais n'a remporté son premier titre de champion qu'en 2010. En 2017, Salé monte sur le toit de l'Afrique, sacré vainqueur de la FIBA Africa Champions Cup, le premier titre international du club. L'année suivante, l'équipe est encore en finale dans cette même compétition, mais cette fois, la marche a été trop haute pour elle face au club le plus titré du continent, Primero de Agosto d'Angola. Les Marocains ont arraché leur ticket pour la balle en tant que champions nationaux 2019. Sous les ordres du coach Saïd El Bouzidi, celui-là même qui leur a offert leur titre continental en 2017, l'AS Salé compte sur des joueurs expérimentés de l'équipe nationale marocaine comme Abderrahim Naja, Zakaria El Masbahi et Soufiane Kourdou.
Merci Michel.
Merci Yacouba. Bon, aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Seludia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, mercredi, une marche de soutien au Conseil militaire de transition présidé par le général Mahamat Idriss Déby a été autorisée à N'Djamena. C'est une initiative d'une plateforme dénommée Vision Nouvelle qui regroupe des partis politiques et des organisations de la société civile.
une marche hautement encadrée par les éléments de la police nationale. André Kodmadjingar, notre correspondant à Ndjamena, fait le point.
Cette sirène d'alarme qui résonne tout le long de l'avenue Tombarbaï n'avertit pas le passage d'une ambulance, moins encore annonçant le passage d'une autorité. C'est le cortège des marcheurs arpentant cette avenue. Ils brandissent des pancartes et banderoles où on peut lire, entre autres, « Semons la paix pour récolter la bonne cohabitation et la sauvegarde de la patrie. Oui pour la paix et à la stabilité. Oui à la concorde nationale et non à la violence. » Tout en invitant les acteurs politiques à prôner le dialogue, le vice-président de Vision Nouvelle, Nassour Abdelkirim, lance un appel aux autorités de transition en ces termes.
La plateforme Vision Nouvelle recommande et encourage le Conseil militaire de transition à respecter ses engagements contenus dans la charte de transition afin de garantir l'intégrité territoriale du Tchad, à préserver la paix, à consolider la cohésion sociale, à renforcer la stabilité politique, l'unité nationale du Tchad et de continuer sa lutte contre le terrorisme.
La paix et la stabilité, c'est ce qui est sur toutes les lèvres des manifestants composés en majorité de femmes et des enfants qui ont marché 4 km environ pour arriver au palais du 15 janvier où les attendaient les organisateurs de cette marche.
J'ai assisté à mon enfance, l'événement de 79, 82, dès février, 13 avril et la récente événement. Donc, moi, je ne soutiens personne, je veux la stabilité et la paix. Nous, on veut éviter le système ancien de 31 ans.
On soutient cette transition militaire, c'est vrai. On peut proposer un président civil, mais la situation qui est là aujourd'hui ne nous permet pas. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que la transition ne doit pas dépasser les 18 mois. Sur ce point, nous, on ne discute pas.
Selon des indiscrétions, les organisateurs de cette marche ont mis les moyens pour mobiliser les militants. Des bus de transport en commun ont été loués et mis à la disposition de chaque organisation qui mobilise sa base. Cette dame qui requiert l'anonymat explique n'avoir rien reçu comme prise en charge.
Mes éléments ne sont pas arrivés là. Ils m'ont rien donné. Je ne sais quoi faire. J'ai faim. Je n'ai rien mangé ici à des gens là. Ils vont donner plus là pour le déplacement. Maintenant, je vais rentrer après.
Le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, membre de la coalition Wakitama, Mahamat Nouri Bedou, dénonce la politique de deux poids, deux mesures qui caractérise les autorités tchadiennes depuis belle lurette.
Nous savons qu'une marche pareille va toujours être autorisée, encadrée, tout ce que vous voulez. Le système est le même. Monsieur Idriss est mort, mais son système est là.
Avec tout le mode opératoire. Donc, ça ne nous étonne pas du tout.
De toute façon, nous estimons que la Constitution autorise une marche pacifique. Le problème, c'est simplement d'informer les autorités sur l'itinéraire. Mais nous estimons que ce n'est pas un arrêté qui va interdire une marche autorisée par la Constitution. Nous allons toujours braver toute interdiction parce qu'elle est illégale pour nous.
André Kodmadjingar, Ndjamena, pour VOA Afrique.
Au Cameroun, la police accuse un détenu d'avoir usurpé l'identité de présidents africains. La police a déclaré que le suspect s'est fait passer l'an dernier pour le président camerounais Paul Biya et avait escroqué l'ambassade du Niger pour une somme d'argent qui n'a pas été divulguée. Reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kinzeka, récit de Claire Morin-Gibourg.
Le détenu Jacques Calvin Eyafa est attaché à un fauteuil roulant à la prison de sécurité maximale de Yaoundé depuis 2 ans. Pourtant, selon les autorités, cela ne l'a pas empêché de continuer à voler de l'argent par téléphone. L'officier de police judiciaire Vincent de Paul Meva dit que M. Eyafa est accusé d'avoir utilisé un téléphone portable de contrebande pour se faire passer pour des fonctionnaires et pour le président camerounais Paul Biya. Monsieur Meva affirme que ces imitations étaient tellement bien faites que l'ambassade du Niger au Cameroun n'a pas hésité à lui remettre une somme d'argent non divulguée l'année dernière avant son arrestation.
Le délégué général a été saisi par le président de la République qui disait qu'il y a un numéro de téléphone qui a appelé le chef d'État nigérien, se faisant passer pour le ministre d'État du cabinet civil et qu'il agissait sur l'instruction du président Paul Biya et qu'il voulait parler avec son homologue nigérien. Et c'est par la suite que le président nigérien, quand il cherchait à vérifier, on s'est rendu compte qu'il s'agissait ni du président du cabinet civil ni du chef de l'État. Après avoir vu localisé le numéro, on s'est rendu compte que le numéro émettait à partir de la prison centrale de Koumdini. Il a reconnu avoir appelé le chef d'État nigérien.
Vincent de Paul Meva raconte que cette perquisition a conduit Yafa en prison et qu'il purge une peine d'emprisonnement de 3 ans pour une fausse agence de placement qui a promis des emplois moyennant des frais. Selon la police, M. Eyafa a imité la voix du président Biya dans les appels où il a promis qu'il demanderait aux Nigériens du Cameroun de voter pour Mahamadou Issoufou lors des élections de décembre pour une somme d'argent. L'ambassade du Niger à Yaoundé a confirmé que les personnes qu'elle croyait être le président Biya et d'autres responsables de l'État les ont appelés et ont fait des recherches, mais ils ont refusé d'entrer dans les détails. M. Meva précise que M. Eyafa a demandé à l'ambassade de lui donner le numéro personnel du président Issoufou. Il affirme également qu'Eyafa est soupçonné d'avoir tenté de tromper plusieurs dirigeants africains francophones, des groupes d'aide internationaux et des entreprises privées. M. Meva n'a pas précisé le montant d'argent qu'Eyafa a reçu par transfert d'argent mobile depuis le Niger et n'a nommé aucune autre victime. Catherine Penda, qui possède une entreprise de construction de routes appelée Construct Cameroun, dit que M. Eyafa l'a escroqué d'une énorme somme d'argent.
Ils sont tellement bien organisés que tu as vraiment l'impression que c'est eux. Cette période-là, je n'avais pas d'emploi. Et où je me suis dit, s'ils m'écrivent, ça veut dire que peut-être qu'ils me connaissent. Il est urgent que nos services de l'ordre puissent prendre le dossier à main, avoir un numéro qu'on peut appeler au cas où on est victime de ce genre d'usurpation.
La police camerounaise a déclaré qu'elle enquêtait sur un réseau d'imposteurs prétendument dirigé par Eyafa qui usurpe et trompe des hauts fonctionnaires et des investisseurs dans les États d'Afrique centrale. Germain Tonotsimi, professeur de droit à l'université de Yaoundé, affirme qu'Eyafa pourrait être condamné à 40 ans de prison supplémentaire s'il est reconnu coupable.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le dernier rapport de la Commission nationale des droits de l'homme en Mauritanie s'est beaucoup focalisé sur l'esclavage. C'est pour dire que désormais, on évoque le phénomène sans tabou. C'est en tout cas le message de la Commission, mais les ONG locales restent méfiantes et demandent l'application des textes à la lettre. De Nouakchott, notre correspondant Mohamed Diop.
La Mauritanie a aboli l'esclavage depuis 1981. Plusieurs lois anti-esclavage sont également votées, mais le phénomène persiste selon les défenseurs des droits humains. Il fallait donc que la Commission nationale des droits de l'homme prenne position, dit son président, Ahmed Salem Bouhoubeini.
Et notre position est de dire qu'il n'y a pas de tabou en Mauritanie. Tout est ouvert. Même les ONG internationales qui étaient expulsées les dernières fois, on les invite à revenir, comme la Fondation Jesse Jackson, comme les Amnesty International. Aujourd'hui, la Commission nationale des droits de l'homme, avec des partenaires dont le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies, ouvre, font porte ouverte sur l'esclavage. J'invite aussi les journalistes à venir couvrir. Il n'y a aucune raison que leur travail soit l'objet de censure.
La Commission joue les équilibres.
En évitant ceux qui veulent fermer les yeux et traiter avec complaisance l'esclavage, mais en évitant aussi ceux qui veulent en faire un business, ceux qui veulent en faire de la politique, et les deux existent. Donc entre les deux, la Commission nationale des droits de l'homme avec ses partenaires, et elle invite les ONG internationales, particulièrement américaines, à contribuer à cet effort.
Toutefois, des ONG locales restent réticentes, comme nous l'explique Abdelahi Abou Diop, chargé des droits de l'homme à l'ONG IRA.
Abou Diop.
Si l'État veut honnêtement combattre l'esclavage, s'il a l'intention d'éradiquer complètement le phénomène, il devra nécessairement impliquer les ONG des droits de l'homme, les vraies ONG, je veux dire. L'ONG IRA, par exemple, n'est pas reconnue. Et la plupart des affaires d'esclavage que nous portons devant les tribunaux n'ont pas été élucidées. L'affaire peut d'ailleurs se retourner contre nous-mêmes avec des accusations comme désobéissance à l'État et autres choses légères qui nous mènent en prison.
Maître Bourbeni de la Commission nationale des droits de l'homme est d'un autre avis.
Nous avons parfois des ONG qui déclarent des cas d'esclavage sans être documentés. Et malheureusement, ça fait tache d'huile sur la place internationale, l'esclavage en Mauritanie. Alors qu'au fond, nous savons que certains de ces cas ne sont pas documentés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas d'esclavage. Mais nous sommes prêts à les affronter, mais affronter des cas réels et non pas des cas qui sont fictifs.
Mais les ONG dénoncent des coupables qui seraient tirés d'affaire selon IRA. Abdelahi Abou Diop.
Où sont les condamnés pour esclavage? Est-ce qu'ils sont en détention? Évidemment non. Ils sont jugés par contumace. Un procès s'est tenu à Nema alors que les accusés se trouvaient au Mali. Et le tribunal d'esclavage de Nouadhibo a prononcé une peine de 20 ans de prison contre qui? Un vieil homme décédé. Nous réclamons juste l'application des lois nationales et des dispositions internationales sur les personnes reconnues coupables pour esclavage sans complaisance.
Cette fois en tout cas, le ton de la Commission nationale des droits de l'homme est ferme. Ahmed Salim Bourbeini.
Notre rapport est très clair. Nous avons dit qu'il y a 22 cas qui traînent et que ce n'est pas normal qu'ils traînent. Et pas plus qu'hier, j'ai vu le procureur général pour lui dire que nous voulons que tous ces dossiers soient traités le plus tôt possible.
Reste à mesurer l'impact du rapport sur le terrain. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
VOA Afrique en direct de Washington.
La Russie dément toute implication dans la cyberattaque qui a paralysé Colonial Pipeline, l'un des plus grands opérateurs d'oléoducs américains. L'administration du président Joe Biden a pris des mesures pour remédier aux pénuries d'essence. Toutefois, les prix à la pompe ont commencé à grimper. Le point avec Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche. Récit de Jacques Aristide.
Même si Washington tente de faciliter l'approvisionnement en carburant et d'éviter la panique, des conducteurs se ruent vers les stations-service et notent une augmentation des tarifs. Patricia Baumgartner, une automobiliste.
C'est nul doute une nouvelle cause de stress majeur.
Colonial Pipeline, qui fournit près de la moitié des carburants sur la côte est des États-Unis, a dû interrompre ses opérations la semaine dernière en raison d'une attaque informatique. D'après le FBI, la police fédérale américaine, le piratage informatique a été mené par DarkSide, un groupe criminel basé en Russie ou en Europe de l'Est. DarkSide a utilisé un rançongiciel ou ransomware, un programme qui exploite des failles de sécurité pour encrypter les systèmes informatiques et exiger une rançon pour les débloquer. Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche.
Nous attendrons que nos services de renseignement fassent une évaluation complète avant d'avoir plus à dire à ce sujet.
DarkSide affirme avoir pour but de faire de l'argent, pas d'intervenir dans la géopolitique. Le gouvernement russe, lui, nie toute implication. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin.
Nous rejetons fermement toute accusation portée contre nous à ce sujet.
En avril dernier, l'administration Biden a imposé des sanctions à la Russie après le piratage de SolarWinds qui a compromis des réseaux informatiques du gouvernement américain. Des experts se disent en faveur d'un accord international contre les cyberattaques, accord qui devrait également inclure la Russie. Meg King est directrice du programme d'innovation scientifique et technologique au Wilson Center.
Si nous ne trouvons pas un moyen de rendre plus difficile le piratage des entreprises par ces groupes criminels basés en Russie et dans les régions environnantes, si nous ne pouvons pas aider ces entreprises à protéger leurs données, si nous n'expliquons pas les risques encourus par les opérateurs des réseaux vitaux d'infrastructures, ce problème va perdurer.
Colonial Pipeline dit continuer ses efforts pour restaurer ses services. L'administration Biden, elle, a pris des mesures pour remédier aux pénuries de carburant. Jennifer Granholm, secrétaire américaine à l'énergie.
Ce n'est pas un problème de pénurie d'essence, mais celui de fourniture insuffisante. Les choses reviendront bientôt à la normale.
L'administration américaine se prépare également à lever éventuellement certaines obligations pour faciliter l'acheminement de pétrole par navire.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebouya et de Michel Joseph à la Maison du Monde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.